chers collègues, la séance est ouverte.
Radio Vélo en direct à ce 10 février. Bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
À nos côtés Benjamin.
Salut tout le monde.
Et bien évidemment vous suivez l'émission sur Facebook, sur Twitter en direct Radio Vélo, comme depuis environ 50 ans hein, cette émission qui dure depuis fort longtemps ans. Julien. Hein, c'est vrai.
T'as la barbe là.
Non mais bon, je veux dire toujours se renouveler. Alors voilà, cette semaine encore un petit mixte entre le monde professionnel et le monde amateur. Au début on va revenir un petit peu sur les faits marquants de ces première semaine de compétition européenne. Et puis on va avoir Jimmy Angoulevin, le nouveau directeur sportif de l'équipe Direct Energy, qui est quelqu'un de très intéressant qu'on a déjà reçu dans Radio Vélo. Et ça sera l'occasion de revenir sur les superbes performances en début de saison de ces coureurs.
Hein, parce qu'ils ont déjà rempli le contrat déjà.
Voilà, le contrat de confiance hein, du côté de Direct Energy, avec Coccar et Petit, avec également Chavanel qui ont bien marché ces derniers. Dernière semaine, on parlera du monde amateur et plus exactement de la reprise à fond la forme du monde amateur avec l'organisateur des plages vendéennes Camille Grégoire et également le président organisateur, je crois, hein, Christian Bibal de l'Essor Basque, Julien.
Ouais, l'Essor Basque, une épreuve aussi très réputée comme les plages vendéennes, comme étaient aussi les courses au soleil. Donc, ce sont des courses de début de saison où les amateurs vont finir leur préparation et certains vont aller performer puisque voilà, on sait très bien que sur des épreuves comme ça, surtout sur les sorts basques où ce sont des épreuves où le climat est très changeant, on peut très bien avoir du 20 degrés au départ et le lendemain avoir 2 degrés avec de la grêle, presque de la neige. Et en général, ceux qui sont devant, on a pu le voir par le passé, hein, ce sont des coureurs qui sont voilà, qui marcheront tout au long de la saison et qui seront pas loin de passer dans les rangs professionnels. Donc, ouais, de superbes débuts de saison, aussi bien à les sorts basques qu'aux plages vendéennes. Il nous tarde et après on sera pas très très loin de notre fameux Grand Prix de Montastruc qu'on attend aussi avec impatience.
Tiens, remettons-nous un petit quelque chose Julien pour lancer eh bien, ce début de saison, même si eh bien, tous les passionnés de cyclisme, tous les forumers, tous les twitters, tous les facebookiens ont déjà pas mal analysé ce début de saison, ont déjà leur coureur préféré, ont déjà le petit pari sur celui qui va carburer pour tout le début de saison, hein, même déjà certains pensent à l'été, ben oui, pendant que nous, on a la pluie sur Toulouse, d'autres ont déjà la tête à juillet.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Benjamin, d'ailleurs, avec nos amis de Vélo Club du Net, hein, le forum, tout au long de la semaine, je sais que tu regardes d'un œil attentif un petit peu tous les commentaires. On n'a pas lancé de gros débats cette semaine avec nos amis forumers, mais par contre, ça avait déjà commencé en fait ces derniers temps.
Voilà, en fait, je me suis dit pour cette fois-ci, on va pas lancer de débat pour parler en gros de la saison, pour pas rester limité à un seul sujet. Et j'ai pas créé de topic de débat tout simplement, puisque j'invite les auditeurs, s'ils suivent, d'aller sur les différents forums où il y a déjà plusieurs débats, plusieurs avis sur.
Et vous pouvez réagir sur le Twitter, @radiovélo31 également.
Donc, moi, ce qui m'a décidé finalement à pas lancer de débat, c'est cette belle étoile de baissage qu'on a eue, qui est quand même très intéressante, avec Direct Energy qui a continué sur sa lancée de la Tropical à Missabongo, avec un Brian Coccar qui a tout éclaté jusqu'à se faire péter le caisson dans une des étapes difficiles, l'étape que gagne Sylvain Chavanel. Finalement, la seule chose qu'ils n'ont pas remporté, c'est le classement général, puisqu'ils sont tombés sur un Jérôme Coppel monstrueux en contre-la-montre qui confirme sa médaille de bronze. Ouais. Il disait d'ailleurs qu'il s'était un peu ruiné la santé à tenter les grands tours, à apprendre à grimper, et que finalement là il voulait revenir à ses premières amours, c'est-à-dire le contre-la-montre, puisque c'est avant tout un rouleur. Et on voit que dans la lancée de la fin de saison dernière, et même plus puisqu'il est champion de France de contre-la-montre, et bien tout simplement il vient d'écraser le contre-la-montre de l'Étoile de Bessèges. Un contre-la-montre qui a donc soulevé quelques débats, puisque Thibaut Pinot, je crois, fait second ou troisième. Là, j'ai pas les classements sous les yeux. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 Français dans les premiers. C'était quels sont les meilleurs rouleurs français aujourd'hui, ce début 2016.
Ouais, ça a été l'un des débats, tu dis, ou ça a été l'occasion de regarder ça.
C'était surtout où s'est constitué Thibaut Pinot parmi les rouleurs français.
Bah, je situe plutôt pas mal, hein, parce que c'est vrai que bon, après le niveau des rouleurs français, c'est pas le top mondial non plus.
Hormis Coppel, bon.
Hormis Coppel, oui, c'est vrai que depuis les derniers mondiaux, on ne peut pas dire ce que je suis en train de dire. Mais oui, Coppel, Perrault, Chavanel, ils étaient là, hein, sur cette étoile de Bessèges. Également Tony Galopin qui est quand même un bon rouleur.
Pierre Latour qui confirme sa saison dernière, hein, puisqu'on l'a vu notamment à la Route du Sud tenir Contador et Quintana sur le port de Balès, mais le voilà également bon rouleur. Et cette étoile de Bessèges permet de revoir deux coureurs qui reviennent en forme de Français qui ont eu beaucoup de mal la saison dernière, c'est Jean-Christophe Perrault et également Arthur Vichot.
Oui, c'est vrai qu'Arthur Vichot, ça a été compliqué. Julien, depuis son année où il a été champion de France, l'année dernière, ça a été très difficile. Sûrement pour lui, c'est des moments sûrement compliqués quand on a été au top toute une année et que rien ne marche l'année d'après.
Ben, ouais, c'est très difficile mentalement après de s'en remettre. Et quand le doute s'installe, c'est malgré l'entraînement, quand on voit l'entraînement, voilà, on a le doute, et le doute en compétition, et puis au lieu de monter des échelons, mais voilà, on n'en monte pas, voire on en descend, donc ça, la saison après se complique, quand on perd la confiance, la motivation aussi, ça devient très compliqué. Mais c'est vrai que je rejoins un petit peu sur ce classement du contre-la-montre, de l'étoile de Bessèges. Bon, on a nos rouleurs français qui sont là, quoi. On va dire que on est quand même au début du mois de février. On veut pas non plus. Moi, là, je suis quand même assez. Je fais quand même attention. On est quand même au mois de février. Est-ce qu'on veut que nos Français soient déjà au top ici et puis dans les Flandriennes, dans les courses qui seront importantes d'être à côté? Oui. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de la préparation. On voit qu'ils sont déjà dans le bon tempo. C'est déjà une bonne chose par rapport à ce qu'on avait avant.
Oui, parce que c'est plus une course d'entraînement entre eux. Parce que c'est vrai que là, je regarde les 19 premiers. Il y a que des Français et que des Belges. On est quand même sur une course franco-française avec certes l'équipe Lotto Soudal qui amène Galopin, qu'amène Maximum Fort, mais après, 20e, il y a Fabrizio Ferrari du Uruguayen, mais sinon, dans les 20 premiers, il n'y a que des Français, que des Belges. Donc,
oui,
on est quand même entre nous. Quoi, hein,
on sait que chaque année, c'est une course franco-française, on le sait quasiment, mais je préfère voir un Jean-Christophe Perrault qui prend la 3e place d'un contre-la-montre plutôt que de le retrouver en 20e ou 30e position.
Bien évidemment.
Ça donne déjà des indications quant à son état de forme.
On va en parler avec Jimmy Angoulevent pour la confiance aussi. Ça compte parce que ce qu'a fait son équipe, ça, c'est un équipe.
Oui, puis, franco-français, mais c'est quand même un beau plateau parce que les organisateurs devaient être contents d'avoir Tony Galopin, Thibaut Pinot, Christophe Perrault, Arthur Vichot, Sylvain Chavanel, Brian Coquart. Il y avait quand même du joli monde. Alors c'était peut-être franco-français, mais tout de même. Après, c'est vrai qu'il y avait plusieurs autres épreuves à côté, comme le Tour de Valence qui a écrasé Wout Poels de la Sky, qui montre qu'il n'est pas qu'un équipier. Parce qu'on oublie qu'il était très fort jusqu'à... Il avait eu un souci, il avait dû, je crois, subir une ablation de la rate il y a quelques années. Il est revenu, la Sky lui a fait confiance, il montre que c'est pas pour rien. À l'Héralten Tour, donc c'était quand même peut-être le plateau le moins élevé de toutes ces courses, mais on a vu Chris Froome qui remporte sa première course par étape de l'année. Et ça, c'est bien, je trouve, qu'un coureur comme lui...
C'est pas ce qu'on voyait jusqu'à maintenant.
Non.
On ne voyait pas les grands leaders comme ça, en début de saison, déjà être aussi près, aussi de bonheur. Mmh. Certes, le plateau, mais on ne les voyait pas aussi près.
Oui,
quoi.
Parce que Fabio Aru, qui a fait un Tour de Valence pas mal, Thibaut Pinot à l'Étoile de Bessèges au Grand Prix de la Marseillaise, Chris Froome à l'Herald Tourne, Nairo Quintana autour de San Luis, Valverde qui a fait quelques belles attaques au
Contador, tu
Mallorca.
Disais où
non, Contador n'a pas encore repris sa saison.
C'est bien ça, il me manque Alberto. Ouais, bon.
Voilà. Donde está Alberto?
Et ça sera une des questions de l'année. Où en est Alberto Contador pour sa possible dernière saison?
Il s'entraîne.
J'espère bien. Il est quand même gracieusement payé. J'espère qu'il s'entraîne, le garçon.
Gracieusement ou grassement?
Non, gracieusement. Oui, ça dépend quand c'est Tinkoff qui paye, c'est gracieusement. Mais, on en parle de cette équipe Direct Énergie. On va appeler Jimmy Angoulevent. Ouais. Heureux directeur sportif, je pense qu'il va nous dire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu en conclus là de... Est-ce qu'il faut conclure? Non, bien sûr, mais on en tire quand même des premiers enseignements. Coquard, c'était quand même le mec qui fait deuxième des Champs-Élysées, qui n'a pas été loin de battre Greipel, souvenez-vous-en, en juillet dernier. C'est quand même le mec super bankable que tout le monde veut avoir dans son équipe pour lui mettre un train et lui faire gagner des sprints dans les prochaines années, parce que c'est l'un des plus grands espoirs du sprint mondial. Mais il a choisi de rester chez Direct Energy, chez l'ancienne Europcar. Et il croisait les doigts, il a dû en tout cas bien demander d'avoir un train. Pour l'instant, c'est en bonne position de ce côté, cette évolution.
Ah oui, parce que déjà, si on prend les deux recrues phares, on a Sylvain Chavanel qui est capable d'amener très fort dans les derniers kilomètres, en plus d'être un fantastique baroudeur. Et il y a également Adrien Petit qui avait été remercié par Cofidis, puisque même après qu'ils aient su qu'il partait, il a aidé Nasser Bouhanni à gagner l'Europe Tour. C'est lui qui également lance Arnaud Démare lorsque Arnaud devient champion du monde chez les Espoirs. Il aurait pu gagner puisqu'il finit second. C'est un coureur qui semble être totalement prêt à se sacrifier pour le collectif. Et qui gagne également la Tropicale à Missa Bongo. On a également vu d'autres coureurs Direct Energy, soit dans les échappées, soit dans les classements. Je pense également à un coureur du coin, puisque Lian Calmejean finit dans le groupe derrière Thibaut Pinot au Grand Prix de la Marseillaise. Donc je pense qu'il y a un bon recrutement. Ils ont voulu être en forme dès le début de saison pour mettre tout le monde en confiance.
Ouais, c'est sûr. C'est. Ce 109 qui arrive un petit peu avec son recrutement, ça va vraiment faire du bien. Ça va remotiver un petit peu le troupe, puisque surtout d'attaquer une saison avec déjà quelques victoires déjà. On sait combien c'était important pour une équipe déjà d'attaquer de bon pied la saison. Ça ne peut que motiver tous les coureurs, même ceux qui étaient un petit peu dans le dur, et justement de motiver certains pour aller se dépasser et aller peut-être les chercher certaines qui ne seraient pas les chercher. On peut très bien commencer la saison et la continuer. Bon, c'est ce qu'on va voir.
Et justement, pour en discuter, pour continuer un petit peu cet échange, nous avons avec nous Jimmy Angoulevent, l'un des directeurs sportifs de l'équipe Direct Energy. Jimmy, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends bien. Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct quelques minutes avec nous dans Radio Vélo. Mais déjà, peut-être pour nos auditeurs, une petite carte postale. Est-ce qu'actuellement, Jimmy Angoulevent est à la maison ou il est du côté de l'Espagne, je crois?
Non, je suis toujours à la maison. Là, je repars lundi pour la route à Del Sol.
D'accord, donc petit crochet par la maison avant de reprendre la voiture. Justement, quel est le premier sentiment après ces premières courses derrière le volant, Jimmy?
Bien évidemment, il est plutôt bon, j'ai envie de dire, parce que ça s'est bien passé avec les collègues à l'école du BCH. Donc voilà, ma reconversion se passe bien et j'espère que ça va continuer. Ouais.
Et justement, donc cette étoile de Bessèges, comment l'équipe l'avait préparée? Le groupe était ensemble depuis quelque temps, l'équipe qui a couru à Bessèges?
Ouais, c'est ça. On avait fait un stage au mois de janvier qui était plutôt rassurant sur la condition de chacun, parce que bon, il a fait beau cet hiver, donc tout le monde a pu rouler comme il le souhaitait. Et puis bon, on attend toujours les courses avec impatience pour aller chercher des résultats et confirmer la bonne santé des troupes. Donc on est bien évidemment content des résultats qu'on a eu à Bessèges. Ça lance bien la saison et ça rassure que ce soit les coureurs bien évidemment, mais aussi le travail qui a été fait par l'encadrement aussi. Ouais.
Julien, une question pour Jimmy.
Oui, bonsoir Jimmy. Justement, par rapport à ce travail-là, est-ce que des expériences des années passées, bon, c'est vrai qu'on a eu pas forcément du mauvais temps pour préparer cette saison, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, changées un petit peu pour déjà être aussi performant ce début de saison?
On a essayé de retrouver un peu l'envie de travailler ensemble, de créer un groupe qui est solidaire pour aller disputer les épreuves. Donc Donc voilà, on a beaucoup travaillé cet hiver. On a fait aussi deux stages aussi au mois de novembre et au mois de décembre qui se sont déroulés aux Essarts, au siège de l'équipe. C'était une nouveauté par rapport aux années précédentes. Donc on a un groupe qui est principalement de l'Ouest, qui se connaît très bien. Donc c'est vrai que c'est un avantage par rapport à certaines structures qui évoluent avec des coureurs qui sont un peu dispatchés un peu partout. Ouais.
Justement, Benjamin, une autre question peut-être pour Jimmy. Bah, par rapport, on parlait, c'est vrai, de ce qu'atteint l'équipe peut-être du côté du sprint, c'est ça, Benjamin?
Oui, je voulais savoir si vous étiez parfaitement satisfait, je pense que oui, de ces deux premiers recrues, Adrien Petit et Sylvain Chavanel, qui sont parfaitement déjà incorporés à l'effectif, ils ont déjà scoré tous les deux, en plus d'avoir aidé Brian Coquart.
Bah ouais, c'est clair, hein, c'est ce qu'on attendait de ces deux coureurs. On espérait qu'ils soient tout de suite en bonne condition pour pouvoir apporter beaucoup de force au train autour de Brian. Donc c'est ce qui a été fait à l'étoile de Bessèges. On espère que ça va être fait encore sur les courses qui arrivent et notamment les objectifs comme Paris-Nice.
Paris-Nice, c'est vrai que ça va être un premier gros test pour l'équipe avec le sprint. Ça sera avec Brian Coquart, on imagine.
Ouais, c'est ça. Le sprinter numéro un, c'est Brian Coquart. Après, suivant certaines circonstances, ça peut quelquefois évoluer, mais sur Paris-Nice, c'est sûr que ce sera Brian et il y aura au moins 4-5 coureurs dédiés pour le final pour lui, quoi.
Ouais, justement, c'est vrai qu'on a vu également les belles performances d'Adrien Petit, hein, du côté du Tour du Gabon. Ça a été la Tropical Amissa Bongo. Ça a été aussi important au niveau de la confiance pour Adrien. Il s'est mis de suite à la planche pour Brian quand même ensuite.
Ouais, c'est clair. Il connaît exactement le rôle qu'on va lui donner. On lui a jamais rien caché. Il sait que sur les arrivées. Les arrivées massives où il y a Brian, ce sera lui son dernier lanceur. Donc voilà, on est vraiment dans la discussion. On sait aussi qu'on va pouvoir l'attendre sur les classiques flandriennes et aussi sur les prologues et les chronos courts. Donc il y aura parfois l'occasion de pouvoir s'exprimer personnellement. Donc ce mix-là lui va très bien et pour nous va très bien aussi, quoi.
Benjamin,
est-ce que ça ne manque pas à Jimmy Angoulevent de rouler et de faire partie, on va dire, de ce train?
Non, vraiment pas, non. Non, je suis vraiment très content de ce que je fais actuellement. Ça me permet vraiment de partager énormément avec les coureurs, que ce soit des jeunes et des anciens. Donc j'ai franchement l'impression que j'apporte beaucoup plus que si j'étais sur le vélo. Donc voilà, j'étais un peu en fin de carrière, j'avais peut-être pas la même hargne qu'il peut y avoir quand t'es jeune lors des arrivées massives, parce que on réfléchit peut-être un peu plus quand on est un peu plus vieux. Donc voilà, la transition c'est très bien faite et j'espère que ça va continuer.
Bon, mais Julien, ouais.
Ouais, comment ça se passe justement par rapport à cette transition-là, bon, d'être coureur à DS à directeur sportif? Au-delà bien sûr de l'aspect sportif, qu'est-ce qui change?
Bah, beaucoup de choses. Le métier est complètement différent, même s'il évolue dans le même milieu. Là, il y a pas mal de logistique, beaucoup de préparation, d'analyse, d'organisation. On chapote un petit peu tous les corps de métier de l'équipe. Donc c'est complètement différent. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi varié. Mais bon, c'est d'autant plus enrichissant pour personnellement de faire autant de choses et autant de choses qui bien souvent me passionnent. Ouais.
Il y a d'autres coureurs qui étaient dans la voiture pour la première fois sur l'étoile de Bessèges ou pas, Jimmy? Est-ce que tu as été attentif à ça?
D'autres coureurs qui sont passés de directeur sportif?
Oui, cet hiver, oui.
Je pense pas, non. Non, l'année passée, je sais qu'il y a Sébastien Hinault qui a fait la même chose. Cette année, non, je pense pas. Non, c'était que des directeurs sportifs qui évoluaient déjà l'année passée.
Ok. Bon, mais on va remercier Jimmy Angoulevent d'être passé dans Radio Vélo. On va lui souhaiter une bonne saison derrière le volant.
Qu'elle continue comme elle a commencé.
Ah oui. Que ça continue comme ça. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de venir un petit peu prendre la température et puis des nouvelles de cette équipe Direct Énergie. Merci, Jimmy.
De rien.
Merci.
À bientôt et bonne continuation.
À bientôt.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'était donc Jimmy Angoulevin, le directeur sportif de l'équipe Direct Énergie.
Oui, parce que c'est pas évident quand t'es coureur, ben voilà, tu te concentres pour faire ta course, hein, donc préparation, etc. Là, quand tu deviens directeur sportif, comme il le souligne, il va gérer, ben voilà, les masseurs, la logistique, les hôtels, les étapes, préparer les étapes, hein, parce que bon, il va préparer les étapes en fonction du profil, donner voilà tous les renseignements qu'il doit donner suite à la réunion des directeurs sportifs. Et c'est un nouveau métier, comme il le dit, pas forcément facile, mais bon, apparemment, la mise en place a été rapide et efficace, donc déjà des victoires au compteur, mais ça peut que bien continuer pour la suite de la saison.
C'est sûr, en tout cas, très belle carrière, et de la part de Jimmy Angoulevin, on lui souhaite que ça marche bien derrière le volant également. Tu regardais quoi? Tu regardais sa fiche?
En fait, je voulais savoir s'il était passé pro avant ou après Sylvain Chavanel qu'il dirige maintenant.
Ah oui, mais il est passé
en même
pro
temps,
en,
plus
ouais,
ou moins. Un an après.
2000-2001, ouais. C'est vrai qu'il a le même âge, ouais, que Thomas Vauclair, ouais, tout ça. Donc
c'est la même génération.
C'est la même génération, ouais. Je sais pas, est-ce que Thomas Vauclair finira derrière le volant, Julien?
Je sais pas.
Moi, je pense qu'il finira derrière le micro.
Derrière le micro?
Ouais, je pense qu'il sera recruté. Non, je pense qu'il sera recruté par.
À France Télé?
Bien sûr.
Il y en a, ils sentent que le siège chauffe du côté de France Télé. D'ailleurs, on n'a pas parlé de transfert à France Télé. Quid de ceux qui vont commenter les courses de vélo? Ça, c'est pas. On n'en parle pas. On coupe. Tu veux mettre la pub, Julien? Ouais, allez, d'accord. J'arrête. Hein, je n'ai pas trop à dire. Après, on va dire qu'on en dit trop ici. Mais bon, ça change des émissions où on n'en dit pas assez. On revient tout de suite après une petite coupure, retour vers le studio de C'est ta radio.
C'est ta radio.
C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport. Pour les amateurs de vélo, à retrouver en podcast sur cetaradio.fr et le mercredi en direct à 19h. Radio Vélo, l'émission 100% cyclisme uniquement sur C'est ta radio.
Un gros joint, quand on sent l'air au travers du maillot. En roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
De quoi tu veux parler, Benjamin? Qu'est-ce que tu veux de...
Des activités cyclistes des
et
membres.
Oui. J'ai ressorti le VTT avec notre ami Géraldo ce week-end.
Qui a fait un petit coucou, à Philippe aussi, à toute la Dream Team.
Eh oui. Et Mika aussi. Et du coup, non, mais c'est bien. Et toi aussi.
Donc, le moteur électrique marche bien alors?
Non, justement, je lance un appel si vous avez des contacts. Pas pour la compétition. Voilà, c'est pas bien pour la compétition.
Il faut faire des dons,
En revanche, pour moi, ça va déranger personne. Donc, si vous voulez bien m'aider, quoi.
T'as le bois de boulot ou de CP, ça va pas déranger grand monde.
Ça dérange.
Faut attention aux biches quand même.
Du côté de Villaudric. Bref, messieurs, oui, on continue sur du pro parce qu'après, on va parler. On fait un petit coucou à Max Massat, notre ami qui est bloqué dans sa voiture sur la rocade toulousaine. Ben vous savez bien que dès qu'il pleut à Toulouse, on a une difficulté sur les routes.
Alors quand il neige,
c'est encore mieux. On va parler avec l'organisateur des plages vendéennes et de l'essor basque du début de la saison amateur. Mais on continue un petit peu sur les pros. Hein. On est avec Jimmy Angoulevin de Direct Énergie, l'équipe française qui s'est déjà bien mis en avant sur les toits de Bessèges. Il y a l'ex-tour méditerranéen qui va débuter également demain. Hein. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais avant cela, tu avais noté des bricoles.
Eh oui, on parlait du moteur électrique, là, Nicolas, pour toi, et qui fait suite avec la Belge là, qui s'est fait choper au cyclocross. Mais que les amateurs de vélo se rassurent, on a déjà notre premier cas de dopage sanguin cette année avec Vorganov de la Katusha qui s'est fait attraper. Bon. Du coup, il y a eu un débat pour savoir si Katusha devait être suspendu, puisque ça fait le deuxième cas en moins d'un an.
Ai-je besoin de le rappeler pour les demi-finales de la Coupe du Critérium inter-européen des trophées régionaux? Un grand moment en perspective, n'est-ce pas, Hervé? Attendez, j'aperçois Jean-Claude Poucou, voilà les images.
Ah, c'est vrai qu'on a mis l'écouteur d'un tien, et ça ne nous regarde pas, et oui, tout va bien chez Katusha.
Avec Paolini qui avait été positif à la cocaïne.
Oui, mais je pense que Paolini, quand même, c'est vrai que c'est c'était quand là, c'est pendant les vacances d'hiver qu'on a eu les qu'on a eu les échos de, enfin qu'il a parlé dans la Gazzetta.
Oui,
c'était
voilà.
Quand c'était pas les vacances, c'était au mois de décembre.
Oui.
Je pense que il y a pas eu assez de réactions par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que c'était un vrai sujet.
Mais en fait, Paolini, vu que c'est pas du dopage pour performer, mais pour plus décontracter.
Mais ça, ça montre quelque chose de très important.
Oui,
quand même.
Ou alors il a pu dire ça pour dire
oui,
que
on peut voir le mal partout.
Non, mais pour moi c'est, mais voilà, tu t'as pris, tu assumes.
Oui,
quelles que soient les raisons, tu dégages.
Oui,
quand tu te fais
flasher, c'est pas ça que je veux dire. Bon, mais du coup, on va continuer un peu là-dessus parce que quand même, c'est pas ça que je veux dire.
Il y a deux Colombiens qui sont fait attraper.
C'est que il y a un problème qui a été soulevé dans sa défense entre guillemets, qui pour moi n'est pas qu'un prétexte de défense, qui doit être une
alors
réalité du cyclisme. C'est-à-dire le surmenage, la pression, tout ça.
Oui, mais à 38 ans, il faut que tu arrêtes si t'as trop de pression.
Je pense qu'il n'y a pas que Luca Paolini.
Le vélo c'est une passion, donc soit tu.
Je veux pas qu'on l'excuse, juste qu'on se préoccupe de ce sujet.
J'ai compris, c'était pas pour le pardonner, c'était pour le comprendre.
Voilà.
Et moi je te dis, quitte à paraître froid, ben tant pis, tu laisses la place à d'autres, parce qu'il y en a des jeunes, tout ça, que ce soit russe, français, italien, espagnol, québécois ou quoi que ce soit, qui aimeraient, qui seraient capables de faire beaucoup d'entraînement, mais qui sont barrés par des gars qui après supportent pas le surmenage, tout ça. Donc moi, pas de.
Non, mais c'est une certaine dérive après, attends.
Bon, oui, non, bon, ça.
Non, c'est mais pas... c'est un débat, on a deux avis différents, mais moi je suis.
Non, c'est pas un débat, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on creuse, qui soit creusé, et apparemment, mis à part Satom, on creuse pas grand chose.
Ben écoute, c'est comme ça que je le pense. C'est vrai que oui, le cyclisme est un sport dur. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a qu'à voir Wiggins qui après son Tour de France où il a fait d'énormes sacrifices parce qu'on a parlé de la Sky. Oui, ils ont peut-être le produit nouveau. Ils ont l'écart patati patata. Sauf que Wiggins, il s'est entraîné comme un damné pour gagner le Tour de France 2012. À la fin de sa saison, il en pouvait plus. Donc la saison d'après, il s'est raté au Giro. Là, on se rappelle de ses chutes sous la pluie, c'était ridicule. Mais au-delà de ça, il a plus jamais revenu à un niveau de performance, et c'est pas forcément à cause de produits, c'est parce que également dans la tête il pouvait plus, c'est un entraînement tellement dur, non, il est revenu au coin de la montre et c'est tout, mais je me dis, mais il a dû faire des entraînements tellement terribles pour arriver au niveau où il est arrivé, parce que Wiggins c'est pas un grimpeur hein, à la base, qu'au bout d'un moment tu peux plus supporter. Donc oui, si je comprends très bien, mais le fait est qu'on peut pas pardonner ça. Parce
mais je veux
que,
pas pardonner.
Mais je ne dis pas que toi pardonner. Tu veux pardonner, mais avec un discours comme comprendre tout ça, t'en as qui vont s'engouffrer dans la brèche pour dire si il faut le comprendre, il faut le pardonner même. Tu vois ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Donc, quitte à passer pour un monstre, je dis ben tu laisses ta place si tu voilà hein, quand un boulot tu vraiment tu vas pas bien, il y a plein d'affaires.
Oui, parce que ça, c'est vrai que je m'attendais à ce que Julien me dise qu'il n'y a pas que dans le vélo où il y a la pression.
Non, mais. Aujourd'hui, dans la vie de toujours, quel que soit son travail, on parle d'objectifs, de chiffres, de résultats, etc. Donc, on met la pression partout et c'est pas simple à gérer. Après, ça reste de leur métier qui reste du sport quand même. Bon, moi je dis que c'est quand même une certaine dérive, voilà, qu'il faut pas non plus trop passer, quoi.
Exactement.
Sur Paolini, la cocaïne qui permet d'être plus décontracté, tout ça. Quand il pleut, là, comme aujourd'hui, que tu dois aller te taper 200 bornes à l'entraînement.
Oui.
Si tu prends un rail de coque, tu iras plus facilement t'entraîner que le gars qui.
Non,
je vais pas essayer, justement. Et je suis pas allé m'entraîner aujourd'hui.
Quand tu crois que je fais pour cette émission? Tu crois que c'est marrant tous les jours, Benjamin? Bon.
Mais oui.
Non, c'est pas.
Non, mais c'est certain. Mais enfin, bon. Je sais pas. Après, la vision de chaque personne est différente.
Oui. Mais ce qui compte, c'est la réalité. C'est de prendre en compte la réalité, d'analyser les faits. Bon, faut pas qu'on devienne trop philosophique et trop profond dans nos réflexions, parce que c'est vrai que. Mais quand même.
Soit à la fois, t'as la passion du vélo, donc tu vas tout réunir pour aller performer. Donc tu vas aller creuser tout ce qui est entraînement, tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est récupération. Et tu vas vraiment te mettre à 300% pour optimiser tes performances. Soit tu dis, non, je fais pas ça, et puis je vais prendre un chemin de travers pour aller optimiser, mais de façon différente. Chacun a sa philosophie. Bon,
Benjamin, La suite.
Allez, on change pour parler de Valbo Asonagen qui a écrasé le contre-la-montre du Tour du Qatar aujourd'hui.
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, lui.
Il avait gagné en fin de saison.
Mis à part la course au panneau contre toi,
mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on retrouve depuis l'an dernier le vrai Boisson Hagen, celui dont on parlait tout aussi bien que Peter Sagan au début des années 2010, qui était allé chez Sky et chez Sky il y avait appris à mieux grimper. On se rappelle au Dauphiné 2012 où il égrène le peloton.
Oui, on n'arrivait plus à le mettre dans une catégorie. Boisson Hagen.
On dit Sky réussit partout. Là, ils ont fait d'un des Valbo Asonagen un grimpeur comme il n'avait jamais grimpé, sans pour autant être dans les 10, 15, 20 meilleurs. Mais il avait perdu beaucoup de capacité de punch, beaucoup de capacité de sprint. Et là, j'ai l'impression que peut-être après quelques années où il n'était peut-être pas à sa place, on va retrouver un Asonagen très fort dans les domaines où on l'attendait, qu'on amonde pavé et sprint.
Ben c'est sur les classiques que j'aimerais le voir vraiment à son aise. C'est vrai que c'était un sacré pari. Je me souviens qu'il avait gagné Ganwe Velgem, je crois, très jeune avec l'équipe Team Colombia en 2009, c'est ça, non? Je ça affiche sous les yeux, mais j'ai pas encore lu ça. Je me souviens de l'endroit où j'avais vu la course, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Voilà, j'étais au bistrot à Villaudric ce jour-là. Donc c'était bien ça en 2009.
Ivrogne.
Non, avec du café, comme Pauline. Et donc, oui, non, mais cette année-là, en 2009, on nous avait annoncé que c'était une bombe.
On parlait de le nouveau Lady Merckx, parce que forcément très jeune. Bon, après il y a eu Peter Sagan qui l'a éclipsé, mais c'est vrai qu'on parlait d'un coureur formidable, bon sur tous les terrains, hormis la haute montagne. Et après, est-ce que Sky c'est la meilleure équipe quand t'es très jeune? Je crois pas, parce que tu passes comme Gianni Moscone là, qui est un Italien qui vient des espoirs, qui est un des meilleurs espoirs italiens, et dont on parle, il va se retrouver équipier. Et du coup, par rapport à d'autres coureurs de la même catégorie d'âge, il va prendre du retard. Alors peut-être plus tard, ça lui servira, mais...
Donc tu veux dire du coup qu'en fait, il vaut mieux prendre, quand on monte, pas rentrer dans une grosse équipe directement, plutôt se faire dans une petite équipe ou moyenne équipe.
Ouais, surtout la Sky, peut-être la BMC, j'éviterai. Après Etix, on voit quand même qu'ils font confiance aux jeunes, plus. En tout cas, la preuve à la Philippe quand même, qui a montré de belles choses. Oui, j'irai plus dans une équipe comme je vais prendre les équipes françaises parce que c'est celle que je connais plus, mais Direct Energy, Fortuneo ou FTJ, où t'as l'air d'avoir plus de liberté. Je vais omettre volontairement Cofidis qui se retourne vraiment vers Boigny, mais même si on a vu l'an dernier que Loïc Chetou par exemple a pu partir dans plusieurs échappées en début d'année, là également Anthony Perez cette année. Mais voilà, oui. Après, c'est un choix. Hein. Tu peux être équipier, t'apprends à rouler devant le peloton, tu progresses également. Mais tu peux pas t'attendre non plus.
Une sacrée équipe, donc, là où il est, la Team Dimension Data Kubeka, là. Ça va être intéressant, en tout cas, de voir, parce qu'il est quand même dans l'équipe de Cavendish. Ouais. Il y a Rencho aussi qui est là pour Cavendish. Il y a Farrar qui est toujours là, je crois. Donc, Bernard Hissel aussi, ça peut être un potentiel. Quand même, faudra avoir sa place dans l'équipe, à ton ami Bossé.
Ça me fait penser à l'équipe. C'était HTC le nom.
HTC Aerode.
Quand il y avait Cavendish, justement. Ouais. Ça me rappelle cette même
dynamique. Il y avait une grosse équipe aussi.
Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois.
Et il était avec Cavendish.
Mais je pense qu'il se retrouve un petit peu.
Il y avait Greipel aussi, il y avait déjà Rencho. C'est vrai que. Et Hissel aussi, il y avait la base. Mais il y a Cavendish, il est fidèle aussi.
Oui. Il y a juste un truc que je vais reprocher à Dimension Data, cette équipe. C'est qu'on nous l'a survendu l'été dernier comme l'équipe africaine patati patata. Sauf que voilà, hormis le Tour d'Afrique du Sud, ils font aucune épreuve africaine.
Ça va pas loin de faire les épreuves africaines.
Quand on te parle de l'équipe, oui, avec un grand E, africaine, je pense que pour le développement du cyclisme africain, ils devraient aller faire ces courses-là. Ouais. Ils ont quand même une partie de l'équipe qui est africaine.
Ouais.
Tu les mets. Tu mets pas forcément Cavendish autour du Gabon, certes, ou la Tropical à Misavongo, pour dire le bon nom. Mais tu fais quand même un certain effort. Surtout quand on te dit, oui, c'est l'équipe africaine, patati patata. Bon,
t'as d'autres infos ou pas
une dernière.
Moi, du coup, à l'organisateur.
C'est que je suis un fervent opposant aux oreillettes. Oreillettes qui sont autorisées sur les points hors catégorie et les points 1 cette année. Donc l'étoile de Bessèges, donc le trophée de Majorque, tout ça maintenant c'est oreillette. Et il faut reconnaître quand même que ça n'a pas empêché le spectacle et ça n'a pas empêché les échappés de remporter plusieurs victoires.
Ça n'empêchera pas.
Non, mais moi qui, tu vois, je reconnais que même étant fervent opposant, c'est les coureurs qui font la course et on a eu de belles courses. Alors certes, l'étoile de Bessage, il y a eu plusieurs sprints remportés par Brian Cocard, mais bon, il ne faut pas croire non plus que si on enlève les oreillettes, il va y avoir que des échappés qui vont gagner.
Non, loin de là. Aujourd'hui, les coureurs sont quand même informés. Il y a des ardoisiers qui sont là pour informer les différents écarts entre les échappés et le peloton. Et on faisait comme ça avant. Quand ils auront envie de rentrer, ils rentreront quand même. Ils géreront l'écart avec la rentrée sur les routes de tête, ils le feront pareil. Ça sera moins téléguidé.
Et c'est également grâce aux cadors du peloton qui ont fait la course. Bon, je reviens sur Froome, je reviens sur Cancellara, qui a gagné déjà une manche du trophée de Majorque. Pinot, tout ça, c'est des gars qui sont allés au charbon. Et c'est bien parce que ça permet de sortir de courses aseptisées pour les jeunes ou les nouveaux qui sont sur la ligne d'arrivée pour regarder une arrivée. Quand on entend le speaker ou qu'on regarde à la télé une course de vélo débridée, c'est quand même bien plus sympa et ça motive plus à suivre.
Ah, c'est sûr que c'est sûr. Moi, je partage complètement ton avis. Aujourd'hui, voilà, on a des coureurs qui sont, pour moi, je veux dire, plus ou moins téléguidés et on laisse pas l'opportunité. C'est un petit peu dommage, quoi. Oui, Nicolas.
Oui, tu peux continuer à parler, c'est les conditions du direct. Nous sommes donc avec Camille Grégoire. On va passer au monde amateur, messieurs, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la reprise. Et c'est presque l'heure des plages vendéennes cyclistes, telle est l'appellation de la course, cher à Camille Grégoire, le président organisateur. Camille, est-ce que vous nous entendez ?
Très bien, je vous reçois 5 sur 5.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Radio Vélo. Ben, on avait envie de faire un gros plan sur ces courses de début de saison, notamment du côté de la Vendée. La 30e édition du 13 au 21 février. C'est vrai qu'on a dans notre équipe un chroniqueur, Max Massad, qui nous a déjà dit beaucoup de bien ces dernières années de cette épreuve. Et c'est vrai qu'on avait envie, Julien, de faire un petit focus.
Ben oui, parce que bonsoir, c'est vrai que bon, nous, étant du Sud, on était habitué, je veux dire, aux courses au soleil, à ce fameux Essor Basque aussi, donc qui faisait l'ouverture un petit peu de la saison amateur. Mais sans oublier, bien sûr, ces fameuses plages vendéennes qui, cette année, feront leur 30e année. Donc, il y a des épreuves phares de début de saison où il faut déjà être très performant. Et on voulait un petit peu savoir, voilà, le déroulement un petit peu de cette épreuve-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Eh bien, sur 9 jours, il y a 6 épreuves. C'est-à-dire les 2 week-ends plus le mardi et le jeudi. Et donc, ce sont 6 épreuves complètement différentes, les 2 premières étant sur le littoral, donc relativement plat. Après, c'est la météo qui fait la différence, et en ce moment, la météo, on n'est pas très gâté de ce côté-là. Ensuite, sur semaine, le mardi et le jeudi, c'est un petit peu de faux plat, donc ça donne un petit peu plus d'animation. Comme Chaland, d'ailleurs, c'est pareil le samedi, et le final à Chantonnay, où il y a quand même là, il y a du dénivelé. Donc, ça change complètement. Mais pour nous, c'est le meilleur dénivelé que nous pouvons trouver en Vendée.
D'accord. Et au niveau de ce sont chaque course, elles sont pas individuelles, mais elles sont uniques, ou s'il y a un classement qui se fait par étape, ou un classement par point à l'issue de ces 6 épreuves?
C'est un classement par points parce qu'à l'origine, c'était des courses d'entraînement. Donc, même si maintenant, on est rentré dans la saison cycliste, avant, c'était mars, maintenant, c'est février. Mais bon, pour cette année, nous sommes restés au point. Et ça permet aussi aux équipes de se peaufiner, de bien se régler, parce que c'est quand même que le début de saison. Hein.
Justement, peut-être vous pouvez nous parler. Ben, c'est vrai qu'on est à quelques jours maintenant de la première épreuve. Comment vont les préparatifs? Quel est le quotidien d'un président organisateur là à peine 3 jours de la première course?
Ah, en ce moment, c'est très chahuté parce que la météo agite non seulement bien l'atmosphère, mais ça agite bien aussi les esprits parce que le premier jour, surtout au Noirmoutier, on nous annonce, suivant les sites, des vents très violents. Donc, on s'interroge, dirions-nous. Il y a tous les réglages, bien entendu, de finalisation, tous les détails à régler.
Ouais, c'est vrai que cette course est réputée ben, pour les bordures, pour le vent. C'est vrai que c'est formateur, c'est passionnant. Hein, c'est ça, Camille?
Oui, tout à fait. Oui. Surtout les 2 premiers jours, c'était propice à des bordures. Ça, c'est incontestable.
Et justement, par rapport à ces conditions météo, est-ce que vous avez déjà dû, par le passé, annuler du coup certains jours de course?
Oui, par la neige.
Par la neige, par contre.
Neige et verglas, une fois. Et puis, si c'est par le vent, ce sera la première, en 30 ans.
D'accord, donc quand même, c'est quand même que les cours cyclistes, hein, ils lâchent jamais rien, Julien. C'est pas le vent qui les arrête, non, hein, on le sait.
C'est vrai que c'est déjà très compliqué d'arriver à organiser une épreuve. Il en faut vraiment beaucoup pour qu'on soit obligé d'annuler cette épreuve-là. Voilà, des conditions de neige et verglas, quand c'est impraticable, c'est impraticable. C'est vrai que la météo en ce moment, le vent, c'est un petit peu, c'est l'ennemi du coureur. Et c'est vrai que là-bas, ce sont des courses où les coureurs vont beaucoup apprendre, parce qu'une bordure, c'est pas si simple que ça à gérer. Et celui qui sait pas la faire, il va la prendre, il va vite se retrouver derrière. Quel plateau vous attendez sur ces 6 jours d'épreuve?
Disons que à ce jour, nous avons à peu près 200 coureurs engagés, nous sommes au maximum. Mais bon, je pense que de présent, il y en aura 170, parce qu'il y en a qui, la météo va leur faire peur. Donc c'est quand même après toutes les beaucoup de D1, DN2, DN3, et en étranger, on a la sélection nationale du Kazakhstan qui vient se préparer sur les plages pour aller faire les championnats du monde à Londres début mars.
D'accord, donc ça c'est vrai que c'est aussi un élément intéressant. Où est-ce qu'on vous classe parmi les organisateurs? Il y a des organisateurs qui connaissent très bien les coureurs, les équipes, qui sont passionnés par les classements, qui suivent vraiment la saison cyclisme à fond. Et il y en a qui organisent plus par l'amour de créer un événement, de participer toujours au développement du cyclisme. Vous êtes de quel côté, vous, Camille?
Moi, je suis du deuxième côté, c'est-à-dire nous sommes là pour créer l'événement et puis aider des jeunes à passer à l'échelon au-dessus. Parce que en 30 ans, il y a à peu près eu 150, 180 coureurs qui sont passés professionnels, alors qu'ils sont passés par les plages. Donc c'est plutôt on se cantonne plutôt dans ce rôle-là.
D'accord. Et justement, je crois que vous m'avez dit ce matin quand on s'est contacté que vous étiez président depuis 4 ans et dans l'organisation depuis une douzaine d'années. Est-ce qu'il y a des coureurs qui vous ont marqué, qui se sont imposés ou qui ont brillé, qu'on retrouve plus tard chez les grands?
Je peux vous en citer quelques-uns. Thomas Vauclair, Brian Coquart, Nasser Bouhanni. Tout ça s'est passé par les plages. Claude Moreau, qui a été le premier vainqueur, qui était le président, mon prédécesseur, était le premier vainqueur des plages.
Question un peu plus compliquée par rapport à ces coureurs et à ces vainqueurs potentiels. Est-ce que vous avez souvenir d'un sudiste, de quelqu'un qui était de par chez nous, qui s'est imposé, qui vous a marqué?
Ah,
c'est plus dur. Hein.
Oui, c'est plus dur. Il y a eu Nicolas Jalabert qui est venu.
D'accord.
Mais honnêtement, vous aviez un nom?
Non, c'était une question d'un auditeur là que je viens de recevoir, mais c'est vrai qu'on n'avait pas creusé ça, donc je voulais voir si vous aviez la réponse. Je vois la liste des vainqueurs et j'ai pas forcément de coureurs là du sud qui me parle. Benjamin, est-ce que tu avais une question pour Camille avant de le remercier? C'est vrai que Julien, les plages vendéennes, ça fait vraiment partie du patrimoine des équipes cyclistes. Si peut-être quand même une question, mais c'est vrai que sur la difficulté des organisateurs, on l'entend à longueur d'année, et puis c'est un petit peu malheureusement la chanson de Roland, c'est assez difficile à entendre. De votre côté, est-ce que vous avez des partenaires solides, il n'y a pas trop d'inquiétudes d'une année sur l'autre, ou c'est chaque année un combat, Camille?
Disons que nous avons des partenaires fidèles, mais nous en avons beaucoup, parce qu'on préfère atomiser que plutôt d'avoir des partenaires importants, parce que le jour où on nous lâche, c'est plus difficile à retrouver l'équivalence. Quoi. On fait une répartition plus étendue. Les difficultés, elles sont identiques à tous les organisateurs. Hein. On ne fait pas exception à la règle. Hein.
Et justement, côté aspect sécurité, on sait qu'aujourd'hui, ça devient compliqué vis-à-vis de la préfecture de pouvoir tout mettre en place. On sait qu'il y a des régions où c'est plus favorable que d'autres. Ça se passe relativement bien de votre côté, je suppose?
Alors, nous, la sécurité, ça fait déjà pas mal d'années, ça fait au moins 5 ans que nous n'avons plus de motards de la police. Donc, il y a un club de sécurité qui s'est créé avec ceux qui sont essentiellement d'anciens bleus ou de motards en activité, mais qui prennent leur disposition pour être présents. Et donc là, ça se passe vraiment très, très bien. On a une vingtaine de motards qui vraiment excellent dans la sécurité.
Ouais, donc c'est un point, Julien, toujours crucial, parce que en constante évolution pour améliorer, hein, les...
Oui, et surtout comme il dit que voilà, et c'est vrai qu'étant coureur à l'époque, on avait, et nous étant coureur, on voyait bien qu'il y avait les bleus, les gendarmes qui étaient là, qui étaient présents. Aujourd'hui, ils sont plus là, donc il a fallu les remplacer par des gens qui soient formés. Je suis moi-même ici mon motard formateur pour les motos signaleurs, et c'est vrai que c'est pas chose simple, quoi, d'organiser, d'avoir des gens qui travaillent de façon efficace. Et ces gendarmes qui sont plus là présents sur les courses, c'est une partie de sécurité qu'on a moins qu'on avait avant, quoi.
Et c'est pour ça que nous, dans nos parcours, dans nos itinéraires, on évite les parcours en ligne. On fait plutôt des boucles qui vont de 20 à 35 km de façon à sécuriser au maximum ces portions-là. Parce qu'en ligne, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer.
Bon, on va remercier en tout cas Camille Grégoire d'être passé dans Radio Vélo. Avant ça, Benjamin, on a creusé, on a trouvé un sudiste, c'est ça qui a gagné?
Oui, en 2003, c'est Jean Zen. Qui est
ah oui,
à Toulouse,
ah oui.
Qui est d'ici, oui, qui était licencié à Lavaux également.
Non, mais c'est normal, on peut pas avoir tout le monde en tête, bien évidemment, mais voilà pour l'anecdote et puis pour répondre à l'auditeur qui avait
Jean
posé
Zen,
la question.
Qui est passé pro d'ailleurs dans une équipe belge pendant quelques
tout à
années.
Fait.
Exactement. Bon. Ah non, mais ça y est, maintenant la mémoire me revient, donc il y a des failles parfois.
Bon, mais en tout cas, on vous souhaite une belle épreuve. On espère que le vent sera quand même docile pour permettre aux coureurs de s'élancer. Merci Camille Grégoire d'être passé dans Radio Vélo.
Merci à vous.
À bientôt. Et
merci.
Au revoir. C'était donc l'organisateur, président organisateur.
Et j'attends Christian Bibal qui vient de m'appeler pour dire j'attends ton appel.
Mais oh, Christian,
ne t'inquiète pas, on t'appelle de suite, Christian.
Appelle-le et oui, c'est dit que ça y est, on avait remplacé les surfaces par l'interview des courses
c'est pas le même profil.
Des plages vendéennes. Non, bien évidemment, c'est d'ailleurs toi Benjamin qui côtoie des coureurs un peu de tout niveau, hein, dans tes sorties d'entraînement. Est-ce que tu arriverais à donner une définition de qui va où entre les plages vendéennes et les sorbasses? C'est complémentaire? Est-ce qu'il y en a, ils vont un peu à l'un, un peu à l'autre?
Les plages vendéennes, c'est quand même assez loin. Mais sinon, bon, les sprinteurs et les rouleurs vont aller aux plages vendéennes. Et sinon, les grimpeurs et les punchers vont aller tout simplement à les sorbasses. Même si Johan Varardo, qui est plus... type sprinter va également aller à l'Essor-Basque.
Voilà, donc chacun fait son choix. Julien, est-ce que tu as trouvé cet organisateur?
On redescend un petit peu dans le sud, oui. Monsieur Bibal qui est là, qui était impatient de le... Voilà, donc comment ça va?
Oui, comment allez-vous aussi?
Eh bien nous, ça va, avec de la pluie toute la journée aujourd'hui, avec un froid...
C'est le temps effectivement qui conditionne un petit peu... c'était sort basque comme beaucoup de courses, hein. Vous savez que quand il fait beau, c'est quand même beaucoup plus agréable pour un peloton et pour les coureurs également d'évoluer dans des conditions, on va dire, à peu près normales. Effectivement, le temps, c'est toujours notre problème. Au mois de février, on sait jamais sur quel temps se vouer.
Oui, surtout quand les sort basque, il peut très bien faire 20 degrés et le lendemain faire 3 degrés avec de la grêle. Donc c'est assez particulier, quoi.
C'est un peu ça, oui. On est habitué un petit peu à toutes les conditions, effectivement, d'une année à l'autre. L'an dernier, notamment, on n'avait pas été trop gâté. On avait pas mal de pluie, notamment de pluie, et surtout sur la première journée de course entre Boucau et Tarnos.
Bon, tout à l'heure, on parlait des plages vendéennes, donc là, on va présenter cet essor basque. Et qui année à sa combien d'années?
41e
édition. Donc ça se déroule pareil sur 6 courses, si je me trompe, 5 courses.
C'est 5 courses.
Ah, auparavant c'était 6 courses, donc 5 courses, donc le samedi le dimanche, une dans la semaine et après, à nouveau samedi dimanche.
C'est ça, c'est le rythme effectivement qu'on a adopté, oui, tout à fait.
Oui, ça fait d'ailleurs pas mal de villes étapes, hein, 8 villes étapes, 600 km à travers le Pays Basque. Est-ce que c'est difficile de trouver encore les villes de départ et d'arrivée, ou on s'appuie chaque année sur quand même des communes fidèles, Christian?
Alors, effectivement, vous l'avez dit, hein, ce sont des communes fidèles, puisque si j'en juge par exemple par la ville de Cambo, qui est notre ville historique, on va dire.
Ça fait longtemps.
Sur Basque, ça fait 30 ans. Sur les 41 éditions, on a dû y passer 30 fois, quoi. À Saint-Jean-Pied-de-Port, ça fait plus de 10 ans. À Montléon, près de 15 ans. Effectivement, les villes sont relativement fidèles à l'Essor Basque, surtout à l'intérieur des terres. peut-être plus, je dirais peut-être plus que sur la côte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la côte, on faisait pas mal d'étapes dans à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, on a fait à Biarritz, etc. Et on arrivait carrément au centre-ville. Aujourd'hui, une arrivée au centre-ville, c'est vraiment plus possible, quoi, avec tous les ronds-points pour y accéder, trouver un endroit où il n'y a pas trop de circulation. Ben bon, c'est pratiquement impossible aujourd'hui d'arriver dans les centres-villes des agglomérations. Et donc c'est pour ça que on a gardé quand même des courses, deux courses notamment sur la côte. Puisque on débute sur la côte d'abord, hein, avec l'étape Boucau-Tarnos samedi prochain, et dimanche on s'écarte un petit peu de la côte, mais on n'est pas très loin de la côte entre Cam et Cambon, puis après on est carrément à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on va plus à l'intérieur, parce qu'on a des circuits qui sont plus adaptés aussi aux courses, des routes qui sont bien plus pratiques pour les coureurs à emprunter, puisqu'il y a moins de circulation, on trouve moins de on croise moins de circulation, moins de voitures, et surtout on a des parcours comme les coureurs les aiment en début de saison, c'est-à-dire des parcours relativement au ski ça va passer, il y a le col de Gagnac qui est quand même assez, avec des pentes à 10% ou presque, après on termine par le col d'Hyperlette aussi avec des petits lacets, on se croirait vraiment dans un grand col, voilà, donc ça nous permet à l'intérieur d'avoir de véritables parcours que recherchent les coureurs en début de saison, parce qu'ils viennent sur les Sorbas se préparer avant tout pour... même si cette année, c'est une nouveauté, la saison est ouverte, la fédération a trouvé le moyen d'ouvrir la saison le 1er février, alors que jusqu'à présent, c'était toujours le 1er mars, même si c'est l'ouverture de la saison et le 1er février, on a quand même des courses qui sont là pour préparer les coureurs, quoi.
Ouais, Julien.
Oui, au niveau plateau, qu'est-ce que ça donne au niveau des participants?
Alors, au niveau des participants, d'abord, on a pratiquement le même nombre de participants que l'an dernier. C'est-à-dire qu'on est presque complet. On est à samedi, on devrait partir à 198 coureurs, quoi, pratiquement le plein, quoi, à deux ou trois près. Et des autres courses aussi, pratiquement on est sauf en semaine, c'est le mardi, il y a moins de monde forcément, on est à 160 à peu près coureurs, mais sinon on est à 180, 190, on frise les 200 coureurs, voilà. Ça c'est au niveau chiffres. Peloton, de quoi il sera composé le peloton? Eh bien on a donc alors c'est une nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, c'est plutôt depuis l'an dernier, mais ça aussi ça tient un petit peu à la conjoncture économique en Espagne. On a de plus en plus d'équipes, et ça c'est un phénomène qui est arrivé depuis l'an dernier, d'équipes espagnoles, enfin d'équipes espagnoles, d'équipes frontalières on va dire. C'est quand même les plus belles équipes du cyclisme espagnol qu'on a, avec la Carraro Run, dans laquelle on va retrouver le petit Miguel Indurain, où il porte le même nom et prénom que son père. On va retrouver également Baque Campos, qui est une grosse équipe également. Puis on attend beaucoup... de la nouvelle équipe, vous savez, montée par Manolo Sainz.
Et oui.
L'équipe Aldro Team, voilà, qui va débuter chez nous à Les Sorbas.
Manolo est de retour, et son retour est à Les Sorbas. Justement, Christian, par rapport au passé, peut-être que vous avez une ou deux anecdotes à nous livrer par rapport à toutes les éditions que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a un moment plus qu'un autre qui a été touchant et que vous ne pouvez pas oublier?
Aussi, je peux en citer, on peut en citer des quantités, mais oui. Je vais en citer un peut-être, un parmi tant d'autres, c'est à propos de Romain Sicard. Romain Sicard, c'était en 2008, donc exactement, dont ce coureur est issu du Pays Basque, puisqu'il habite à Sparin, hein,
oui.
Au cœur du Pays Basque, et même au Pays Basque, je dis bien, même au Pays Basque, ce coureur, en 2008, était pratiquement inconnu. On le connaissait parce qu'il avait fait quelques résultats intéressants, mais bon, il n'avait jamais gagné encore de course en élite nationale ni quoi que ce soit. Eh bien, on savait qu'il avait des qualités. Hein. On le savait, on savait qu'il pouvait devenir un grand champion. Et puis, en 2008, donc, sur les Sorts Basques, c'est là qu'il s'est révélé. Il a gagné sa première course en élite nationale, donc à Cambon-les-Bains, c'était le dernier jour, le trophée de l'essor qui se disputait en deux étapes. Le matin, on arrivait en haut du col d'Ibardine, et l'après-midi, on arrivait sur Cambon-les-Bains avec un circuit. Et là, il a gagné. Il a gagné le classement général donc de la journée. Et ça a été une une des premières révélations. On en a eu d'autres révélations, mais sur les sorbas, on pourra en parler. Mais lui, il était vraiment inconnu. Alors après, on a parlé de lui un petit peu parce qu'il a gagné le championnat de France sur piste hier. Il s'est illustré hier. Après, il s'est illustré avec Orbea parce qu'à l'époque, il était à Orbea. Et puis après, il a été d'un seul coup projeté dans l'actualité avec sa victoire dans le Tour d'Avenir et au championnat du monde espoir. Oui. Puis voilà, donc Romain Sicard a débuté sa carrière comme ça. Voilà.
Bon, mais c'est vrai que c'est en tout cas passionnant, ces organisateurs qui ont la chance de voir après l'évolution des coureurs, un petit peu comme on en parle souvent au mois de mai avec la Ronde de l'Isère, mais oui, dès le début de saison avec les Sorbas, qu'on a l'occasion de voir les champions de demain.
Oui, oui, parce que par exemple, on a beaucoup de gens qui viennent voir les coureurs là chez nous et qui nous disent mais on vient sur les Sorbas voir les champions de demain parce que
oui.
On s'aperçoit que des coureurs qui passent par les Sorbas après font un beau parcours. On a eu aussi Warren Barguil dont on avait trouvé que quand il venait à les Sorbas, on avait été aussi très touché par sa gentillesse, sa simplicité. Vraiment, c'est un coureur qui nous avait marqué. Il a gagné les Sorbas il y a 3 ans, classement général des Sorbas. Et vraiment, très, très sympathique, très, très poli également. Enfin, vraiment, il nous avait épaté, quoi, ce coureur. Comme ça, pas mal passé, quoi. Voilà.
Donc, ça commence samedi, les Sorbas basques, samedi 13. Il y aura 111 km hein, pour les boucles de l'essor. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Christian, pour cette première course?
On a oublié, parce qu'on a parlé des équipes, notamment espagnoles, mais quand même, on a quand même de grosses équipes, et notamment, là, je viens de l'apprendre ce soir, l'armée de terre va s'engager. Donc, on aura l'équipe professionnelle de l'armée de terre qui va s'engager sur l'essor ce week-end. Ils viennent. Ils sont actuellement en stage en Italie. Là. Ils vont descendre à l'Essor Basque ce week-end. Donc ce sera avec Blagnac, qui est quand même une très belle équipe. Hein. Mmh. On parlait de Romain Sicard,
oui.
Qui faisait partie de l'équipe de Blagnac à l'époque, hein, quand il s'est révélé à l'Essor. Blagnac est une très belle équipe. L'an dernier, Romain Capistrot avait gagné l'Essor Basque. Il revient cette année. Il a été stagiaire chez les pros en fin de saison.
Oui, oui, tout à fait.
Et Johan Verardo aussi, qui a gagné 2 courses à l'Essor Basque en année, 2 épreuves.
Les Midi-Pyrénées sont toujours présents à l'Essor Basque.
Voilà, c'est ça. Les Midi-Pyrénées sont pas mal, ouais, effectivement. Effectivement.
Bah, bien sûr.
Oui. Les Bretons de Loudéac aussi, qui a une très belle équipe aussi, et qui viennent chaque année, sont fidèles à l'Essor Basque aussi.
Oui, il y a beaucoup de Bretons qui venaient. Je me rappelle avant, il y avait Jean-Flo qui descendait.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Loudéac, ils vendent cette année en DNA. Donc, ils viennent faire leur gamme sur l'Essor Basque.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors, Christian, pour ce week-end?
Ah ben, si avec un seul vœu, c'est le vœu au niveau du ciel, quoi.
Ouais.
Que le ciel soit relativement clément, quoi. On va pas trop en demander. On va pas en demander un grand soleil. C'est pas ça qu'on demande. qu'on ait pas le déluge qu'on a connu l'an dernier pour la première épreuve, quoi. Voilà, qu'on ait un temps bon, relativement clément, quoi, voilà, pour que les coureurs puissent en profiter un petit peu, et les spectateurs aussi.
Merci Christian Bibal d'être passé dans Radio Vélo, et puis à très bientôt. On vous souhaite une très belle épreuve et bonne continuation.
Merci à vous.
Merci, à bientôt. Bonsoir. Au revoir. C'était Christian Bibal, le président organisateur de l'Essor Basque. Ben là aussi, on voit que c'est les champions de demain.
C'est quand même pas simple.
Moi, ça me donne envie d'y aller quand même. Je regrette de ne pas avoir prévu. Hein,
quand c'est quand même pas simple pour quelqu'un qui organise une course d'une journée. Eux, c'est 6 épreuves qu'ils organisent, entre 5 et 6 épreuves. Et c'est quand même pas rien. Il faut trouver les villes de départ, les villes d'arrivée.
C'est pas des jours consécutifs aussi. Donc c'est ça qui m'a toujours surpris. C'est vrai, quand on allait aux courses au soleil, là, il y a quelques années avec l'équipe Radio Vélo, il fallait revenir 2 week-ends. Et c'est vrai que pour les équipes, bon, mais certes, entre guillemets, ils ont que ça à faire, donc c'est compliqué. Mais pour tous les suiveurs, tout ça, c'est compliqué de mobiliser tous ces gens. Il y a énormément de bénévoles dans le vélo. C'est un grand théâtre, un grand cirque qui ramène sa caravane à chaque fois.
Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que les coureurs, moi, je me souviens être à l'Essor Basque, voilà, sur ces 6 épreuves qu'il y avait.
Super. Entre temps, tu t'entraînes.
On profitait pour faire un stage. On disait voilà, comme ce sont des courses où il n'y a pas un classement général, donc on peut en manquer une. Par exemple, on disait voilà, je vais faire celle-là, je vais récupérer, je vais aller faire une sortie de récup. On y allait pour se préparer en quelque sorte, mais enfin, aller à l'Essor, il y a quand même pas mal de dénivelés. Il faut arriver quand même à certaines conditions pour au moins bien figurer, parce qu'elles sont très 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 dures. Autant sur Perpignan, les distances étaient assez courtes et le dénivelé assez facile, mais ça roule vite, on pouvait rester en les roues se caler. Là, à l'Essor Basque, le parcours est très difficile et les conditions météo très difficiles, donc il faut arriver avec un minimum de conditions. C'est vrai que on mobilise davantage les gens sur des jours d'affilée. Mais bon, ça a tout le mérite d'être organisé.
C'est
parce que
c'est énormément quand même pas de mérite.
C'est pas rien, quoi. Hein.
Et puis c'est vrai que le parcours est l'un des plus durs qu'on puisse trouver chez les amateurs.
Ah mais c'est très très dur, c'est très très dur. Les routes au Pays Basque, c'est des routes où on est tout le temps en prise, ça rampe pas, il y a toujours du vent, les conditions toujours il pleut, il fait mauvais. Les gars qui sont devant, c'est pas des morts. Moi, je te garantis, moi pour les avoir fait plusieurs années, voilà quoi, ceux qui sont devant. Et puis il peut faire 20 degrés comme je disais, le lendemain tu refais une étape, il fait 2 degrés, l'organisme, je dis pas le bête qui prend. Et voilà, c'est des superbe course, quoi. J'ai pas eu de la chance de faire les plages vendiennes, mais les sorts basques, ouais, c'est une superbe organisation. Et c'est presque une course par étape, presque, quoi.
Eh bien, en tout cas, ça donne envie de suivre ça. Max Massad sera notre envoyé spécial aux plages vendéennes. Il nous les racontera, bien évidemment, en détail. Ce même Max qui m'envoie le message souhaitant un joyeux anniversaire à Pauline Ferrand-Prévot qui fait ses 24 ans. Il a loupé
du
ce Max. La Méditerranéenne, la petite sœur du Tourmède, première édition à partir de demain.
Et
oui,
demain,
avec contre la montre par équipe entre du côté de Bagnoles, avec AG2R qui partira en dernier, FDJ en avant-dernier, il y a l'armée de terre, il y a nos amis Loubet, Pouliès du Sud, il y a Alexandre Géniez qui fait peut-être partie Calme des favoris, hein, dans son équipe. Il y a également Arnaud Desmar du côté du sprint, l'équipe AG2R aussi a suivi. Il y a pas mal de monde, il y en a pour qui ça sera aussi les premières courses. Chez les pros, on ne devrait pas s'ennuyer, on va suivre ça en détail. Il est peut-être passé un petit coup de fil au vainqueur.
C'est sur Direct Vélo pour les suivre. Attention à la troisième étape par les pentes du Tanneron.
Ça marche, bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine, le podcast, bien évidemment. Vous le partagez, vous en parlez, Twitter, Radio Vélo. 31, ciao.
Ciao, bonne soirée, bonne semaine.